Les médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Le grand voyage continue avec un tour du monde autour des mystères du Petit Prince de Saint-Exupéry. Un détour en Irak et au Liban avec un roman manifeste et de la douceur avec un artiste généreux qui va jouer sur notre plateau.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
C'est un livre inattendu avec un écrivain populaire qui dévoile sa passion pour le Petit Prince de Saint-Exupéry. Avec Code 612, Michel Bussy multiplie les références et aussi les informations liées à la mort de Saint-Ex et au mystère du Petit Prince. L'écrivain libanais Sharif Majdalani sera avec nous depuis Beyrouth pour son nouveau roman. Il dénonce les répétitions historiques et la violence du Moyen-Orient avec en toile de fond les richesses de l'art oriental menacées par les djihadistes. Et puis nous recevons un chanteur français, Thomas Fersen, avec un livre CD pour la jeunesse. Il vous racontera l'incroyable histoire du ukulélé et nous emmènera sur une île. Il jouera aussi de cet instrument dans notre studio. Et les libraires sont avec nous comme chaque semaine. Ils interviendront tout au long de cette émission. Bonjour Dominique Bressoux.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. Vous représentez ce beau pays qu'est la Suisse. Tout va bien pour vous ?
Tout va très bien.
Parfait. Pour la France, on retrouve Thomas Auxerre de la librairie Lamandier à Puteaux, juste à côté de Paris La Défense. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien à Puteaux ?
Ça va plutôt bien.
C'est la blague récurrente, voilà, c'est notre spécialité. La marque de fabrique. Je commence à avoir des insultes, hein, force. Hein.
Ah,
on va peut-être arrêter. Mais c'est vrai que ça va plutôt bien. Au Canada, c'est Josiane Letourneau, notre fidèle libraire à la radio et la télé. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Montréal dans la librairie du Square et nous serons à Montréal pour une séquence exceptionnelle au Salon du Livre de Montréal dans 2 semaines. On vous y retrouvera, j'espère.
Ben, j'aimerais ça.
Ben, j'espère aussi. On vous invitera de toute façon. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles, vous, toujours, hein ?
Oui.
Dans la librairie Le Public par filigrane.
Ouais.
Et vous allez nous raconter une anecdote de libraire en ce début d'émission.
Mais oui, mais oui. Donc un jour, il y a une petite dame adorable comme ça qui arrive à la librairie et qui m'explique un peu tracassée qu'il y a 2 auteurs qu'elle aime beaucoup, surtout un des deux, mais elle les confond toujours. Vous voyez, il y en a un que j'aime un peu mieux, mais voilà.
Oui.
Et donc après analyse profonde de son cas, j'identifie qu'elle parle de vous, Monsieur Bussy, et de Guillaume Musso. Voilà. Donc Michel Bussy, Guillaume Musso, je vous rassure, Monsieur Bussy, vous étiez celui qu'elle préfère.
C'est ce que j'allais dire, oui.
Oui, si, si, si. Et quand même, malgré tout, au moment de partie, elle me dit « Donc, madame, celui que j'aime bien, c'est Busseau, c'est ça ?» On n'est pas rendu, quoi.
Oui, c'est la pagaille, quoi. Hein.
Oui, mais c'est mignon, quand même.
Oui, c'est vrai que c'est mignon. Bon, bonjour, Michel Bussy.
Bonjour.
C'est pas mal, cette histoire.
Oui, bah, pour vendre des livres, il faut avoir un prénom en 2 syllabes, en fait, pas plus.
C'est ça. Lévi, Musso. Voilà, et Bussy, c'est vrai.
Mais c'est mon vrai
c'est
nom.
C'est pas faux. Bon, allez, on va parler du Petit Prince.
Oui. Hein,
ensemble, allons-y.
La Méditerranée n'a pas encore livré tous ses secrets sur la mystérieuse disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. Mais la découverte de cette gourmette, gravée de son nom et de celui de son épouse, prouve au moins une chose. Le Lightning P38 de l'écrivain s'est bien animé en mer et non dans les Alpes, comme on l'avait aussi pensé. Depuis le fameux dernier vol présumé de Saint-Ex, le 31 juillet 44, il ne restait aucune trace du fameux bimoteur jusqu'à cette découverte. Peut-être le début, donc, d'un superbe scénario qui relance encore la légende du père du Petit Prince.
Voler de nuit, comme Saint-Exupéry, serrer les corps, que les âmes sont égaux.
Sur cette musique de Calogero en hommage au vol de nuit de Saint-Exupéry. Michel Bussy, vous connaissez cette chanson ?
Oui, je la connais, ouais.
Bon, alors faisons un point sur le mystère qui entoure l'auteur et sa dernière œuvre, Le Petit Prince. Vous connaissez un grand succès en librairie depuis une dizaine d'années. Depuis 2013, vous faites partie même du top 10 des auteurs français qui vendent le plus de livres. Vous êtes deuxième à ce classement en 2020. C'est la bataille, hein, on l'a compris avec notre libraire tout à l'heure, entre Guillaume Musso, Virginie Grimaldi, Marc Lévy, Franck Tillier et vous. Vous publiez un nouveau roman enquête inattendue, Michel Bussy, sur Saint-Exupéry et le Petit Prince. Vous avez une passion pour le Petit Prince et ses mystères ?
Oui, c'est une très ancienne passion, alors qui remonte sans doute à l'adolescence plus qu'à l'enfance. Et c'est vrai que voilà, j'ai collectionné notamment les Petits Princes en langue étrangère. J'allais dans un pays étranger, essayer de trouver mon Petit Prince, les amis m'ont ramené. Voilà, donc il y a une longue histoire avec le Petit Prince. Et puis évidemment, ce parallèle avec le mystère de Saint-Ex. C'est vrai que j'ai toujours été fasciné par les romans de Saint-Ex, mais aussi évidemment par sa personnalité et son destin assez étrange, puisque évidemment il y a encore un mystère Saint-Exupéry.
Alors effectivement, Saint-Exupéry mort lors d'une ultime mission de reconnaissance en 1944 entre Borgo en Corse et Grenoble. On n'aurait jamais retrouvé son corps et les débris de son avion auraient été découverts, hein, je dis tout le temps ça au conditionnel parce que rien n'est sûr. C'était au large de Marseille en 2000 ainsi qu'une fameuse gourmette en 1998 par un pêcheur marseillais. Mais dans votre histoire, Michel Bussy, vos personnages n'y croient pas tous. Ils ont chacun leur version.
Bah, l'idée, c'était de faire un parallèle entre la disparition du Petit Prince, hein, puisque dans Le Petit Prince, à la fin du conte, le Petit Prince disparaît, on ne retrouve pas son corps. Donc on suppose qu'il est retourné sur son astéroïde, mais enfin, on ne retrouve pas son corps. Et puis le parallèle avec Saint-Exupéry, puisque quelques mois plus tard, Saint-Exupéry disparaît, on ne retrouve pas son corps. Ouais, il y a même un parallèle, puisque le Petit Prince dit « on ne retrouvera de moi qu'une écorce, et on ne retrouve de Saint-Exupéry qu'un aileron d'avion ». Donc c'est assez étrange, presque prémonitoire, Le Petit Prince, et c'est ça qui m'a mis quelque part la puce à l'oreille.
Alors, il y a plein de choses bizarres. On va les prendre dans l'ordre, Michel Bussy. Il y a d'abord ce pêcheur marseillais qui a été accusé de mensonge par la famille. Il a dû même se lancer dans un procès pour laver son honneur avec pour avocat, c'est la petite histoire aussi, celui qui deviendra homme politique du Front National, Gilbert Collard. C'est lui qui était l'avocat de ce pêcheur. Et c'est vrai que cette histoire de gourmette est improbable car il n'en portait jamais, sauf peut-être une, et elle était en or.
Oui, c'est ça.
Pas en argent.
C'est-à-dire, au moment où on retrouve cette gourmette, personne n'y croit parce que Saint-Exupéry n'a jamais porté de gourmette et en plus, personne n'a jamais entendu parler de cette gourmette. Donc, tout le monde pense que c'est un faux et il faudra qu'on trouve une carcasse d'avion à peu près au même endroit que la gourmette pour
se dire,
donc la gourmette est vraie puisqu'on a retrouvé l'avion. Mais c'est quand même assez improbable et d'ailleurs, retrouver une gourmette dans l'ensemble de la Méditerranée, à plusieurs centaines de kilomètres du vol où aurait dû se trouver Saint-Exupéry, c'est aussi très étrange. On imagine cette gourmette au milieu de mètres cubes d'eau.
Alors vous racontez l'histoire du stylo aussi. Il faut savoir que Saint-Exupéry était un passionné de beaux stylos. Il avait un Parker 51, stylo à plumes de légende qu'on peut acheter, qui existe toujours aujourd'hui. Et Okodolo, un milliardaire camerounais, c'est lui qui va relancer l'enquête dans votre histoire, va demander à un aviateur sur le retour, à une très jeune détective, de raconter un peu cette histoire avec d'autres personnages et de finalement chercher la vérité. Et il a ce stylo, mais on l'a jamais retrouvé le stylo, Michel.
Non, bah comme tous les aviateurs, il y a une liste d'objets que Saint-Exupéry portait au moment de son dernier vol. Alors il n'y avait pas la gourmette, évidemment. Il y avait ce stylo et quelques autres objets. Et c'est vrai que si un jour on retrouvait le stylo, là on se dirait bon là.
Mais vous imaginez qu'on l'a retrouvé le stylo.
Alors évidemment, je pars parce que c'est un peu l'objet mythique finalement de Saint-Exupéry, ce stylo qui lui ne le quittait jamais. Ça, on est sûr.
C'est vrai, c'est vrai. Ce qui est étrange dans cette mort de Saint-Exupéry, c'est que le trajet entre Borgo et Grenoble passe par Nice et pas par le Var, encore moins par Marseille. Sauf qu'il est possible que pour se faire plaisir, comme c'était son dernier vol, Saint-Exupéry ait survolé Agué. Il faut savoir qu'Agué, c'est un petit village juste à côté de Saint-Raphaël et c'est là qu'il a passé son enfance. Donc peut-être qu'il aurait dérivé pour se faire plaisir et voir le paysage, mais c'était de nuit,
non ? Sa mère habitait à Gué, il avait un rapport très fort avec sa mère, parce qu'il a été élevé seul par sa mère. Et donc sa mère a longtemps prétendu qu'elle avait entendu l'avion de Saint-Exupéry. Alors bon, on peut évidemment en douter, mais en tous les cas, longtemps, jusqu'en 98, on était persuadé qu'effectivement, l'avion, il fallait le chercher quelque part au large de Nice ou de Saint-Raphaël.
Et la mère dira qu'elle a reçu une lettre un an après la mort de Saint-Ex.
Alors ça, c'est vrai. On peut la lire. Elle est connue, cette lettre. On la trouve sur Internet très facilement. Et évidemment, on l'attribue au fait que le courrier a traîné en temps de guerre. Mais c'est vrai qu'elle a reçu une lettre posthume de son fils un an après sa mort. Et une lettre qui, quand on la lit, est assez étrange parce qu'évidemment...
Il la rassure. Il veut la rassurer.
Voilà. Donc il y a beaucoup comme ça d'étrangeté dans cette histoire.
Et il laissera d'ailleurs, juste avant sa dernière mission, en évidence sur son bureau, deux lettres. Dont une à l'une de ses maîtresses, et il dit des choses très troublantes quand même, parce qu'il annonce presque sa mort.
Oui, il dit quelque chose comme « la termitière future me dérange », etc.
Il dit « si je suis descendu, vous le citez, hein, si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien, la termitière future m'épouvante, et je hais leur vertu de robot, moi, j'étais fait pour être jardinier ».
Bah oui, c'est à la fois très beau, parce que ce qui est intéressant là-dessus, c'est que Saint-Exupéry est évidemment un résistant, il s'est réengagé dans la guerre à plus de 40 ans, mais il savait, à ce moment-là, on est en 44, que les nazis allaient perdre, mais il n'était pas pour autant rassuré, c'est-à-dire qu'il se disait, après la guerre, ce sera plus mon monde. Je hais leur vertu de robot, c'est-à-dire cette société moderne, il y était étranger. Il y a quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter.
Alors vos personnages vont aller sur 6 îles, comme les 6 planètes du Petit Prince, à la rencontre de personnages qui ont un lien direct ou indirect avec Saint-Exupéry et qui possèdent donc une part de vérité. Et vous faites une découverte, une coïncidence, sans tout révéler, hein, Michel Bussy, le lien du monde du Petit Prince avec les Bermudes.
Oui, alors ça on va pas révéler, mais
un tout petit peu on peut.
Oui, non, ce qui est intéressant dans Le Petit Prince, parce que c'est une contre-enquête, je mets code 612, c'est que il y a beaucoup de chiffres finalement dans Le Petit Prince, et on sait que Saint-Exupéry adorait les mathématiques, il embêtait ses amis avec des rébus, des codes, des énigmes, et donc c'est amusant, il y a évidemment la théorie de 612, il y a 325, quoi, il y a des chiffres, donc évidemment je me suis amusé à essayer de voir à quoi pouvaient correspondre ces chiffres. Par exemple, le fameux 612, personne n'a jamais vraiment résolu pourquoi c'est l'astéroïde 612. Il y a des hypothèses, mais...
Vous faites une hypothèse avec les Bermudes.
Alors, il y a l'hypothèse avec les Bermudes,
La longitude des Bermudes.
Ouais, mais ça, il faut pas trop en dire.
Bon, j'ai presque envie, hein. Mais bon, alors, si vous connaissez les Bermudes, imaginez la plage, imaginez la capitale et vous avez des réponses, c'est un peu ça.
Oui, et puis il y a ça, et puis il y a cette fameuse expression à 1000 milles de toute terre habitée qui revient beaucoup de fois dans Le Petit Prince, et comme presque de façon récurrente, et on peut se demander ce que ça veut dire, 1000 milles de toute terre habitée, quand même une expression un peu désuète. Donc ça aussi, je m'en suis...
Mais n'en dites pas trop, Michel.
Non.
Vous exagérez. Allez, les libraires, avec le Canada et la Belgique, on commence par qui, Michel? Le Canada, la Belgique?
Le Canada.
Le Canada, allons-y, Josiane Letourneau.
Eh bien, je dois avouer qu'au départ, je ne savais pas à quoi m'attendre en amorçant votre roman. Je crois que j'ai eu un peu peur que la poésie du Petit Prince y soit trop démystifiée, décortiquée, voire dénaturée à mon goût. Mais c'est un roman qui se lit si bien que je me suis prise au jeu de cette mise en abîme aux allures d'enquête. Et par-dessus tout le reste, j'ai envie de vous dire que votre livre, ben, c'est l'expression même de ce que le pouvoir de la littérature peut engendrer. Et ça, pour une lectrice, c'est pas loin d'être la plus belle expression de l'amour qui soit.
Eh ben, dis donc. Ça commence bien.
Merci
c'est la
beaucoup.
Première fois dans la librairie francophone et vous êtes servie par notre libraire québécoise. On va voir du côté de la Belgique, si c'est le cas, avec Déborah Damblon à Bruxelles.
Alors moi je fais partie de ceux...
Quand elle fait ça, on ne sait pas où elle va.
Oui. Je savais que je peux être sournoise. Donc je fais partie de ceux qui connaissent Le Petit Prince presque par cœur. Alors ce qui s'est passé, c'est que dès le départ, je me suis mis à guetter à chaque ligne les allusions à Saint-Exupéry. Et ça m'a un petit peu gâché mon début de lecture. Parce qu'il m'a fallu un moment pour m'en abstraire et puis me laisser aller et plonger tout à fait dans le roman. Alors finalement, c'est vrai, je suis d'accord avec Josiane. Le roman est passionnant. L'angle par lequel vous abordez Le Petit Prince est suffisamment original pour nous faire lâcher prise. La preuve, je l'ai fait. Et puis pour nous emporter. Et je vais pas bouder mon plaisir. J'ai passé un tout, tout bon moment.
Eh oui, c'est vrai, Michel Bussy, j'ai fait pareil, j'ai tout vérifié, moi. Donc j'ai passé des heures à lire votre livre, je vous en veux un tout petit peu, mais du coup ça m'a replongé, j'ai appris plein de choses en même temps, parce que quand on vérifie, on découvre encore des choses. Par exemple, un autre mystère est évoqué dans votre enquête, celui d'archives que possédait Nelly de Voguier. Léguée par son amant, c'était l'une des maîtresses de Saint-Exupéry, il lui donne ses archives, et avant sa mort, en 2003, elle décide de déposer toutes les archives de Saint-Exupéry et ses notes personnelles à la Bibliothèque nationale. Elle scelle les archives et elle donne pour ordre de ne les ouvrir que dans 50 ans, ce qui nous amène à 2053. Et tout le monde imagine qu'il y aurait le testament de Saint-Exupéry et peut-être des choses qui évoqueraient
sa mort, son suicide éventuellement.
Oui, bah c'est sûr qu'on peut penser, puisque Nelly de Voguet était la dernière confidente de Saint-Exupéry. Elle est même retournée le voir en Afrique après l'apparition du Petit Prince.
Donc, oui, au Maroc. Oui.
Donc elle était vraiment de façon très proche de Saint-Exupéry. C'est elle qui a récupéré les archives, notamment qui fait publier Citadelle. Donc on peut penser qu'elle possède, ce sont des choses très intimes par rapport à Saint-Exupéry. Alors après, est-ce que c'est simplement leur histoire d'amour? Est-ce que ça dit des choses sur le Petit Prince? Ça, c'est une autre question.
Et pourquoi elle attend 50 ans d'après vous? Pourquoi elle dit 50 ans après ma mort? Qui elle protège? C'est ça la question qu'on peut se poser.
Alors, on ne sait pas. Alors évidemment, c'était l'amante, elle était mariée, etc. Donc on peut aussi se dire qu'elle n'a pas envie vis-à-vis de sa famille, etc.
Oui.
Que des choses se sachent et qu'elle préfère laisser passer le temps.
Et on est obligé de respecter ça. On ne peut pas appeler la bibliothèque en disant ouvrez-moi ça.
On peut la cambrioler, oui, bien sûr.
Non, mais sans la cambrioler, Michel, ça y est, dans ces histoires. Sans la cambrioler, on peut pas nous appeler et dire est-ce qu'on peut voir? Non.
Non, ça je crois pas.
Non.
Je crois pas.
C'est protégé.
Bah oui, je pense quand même.
On essaiera quand même un jour. Bon, c'est en 1942 que Saint-Exupéry, qui est à New York, écrit Le Petit Prince sur les conseils de son éditeur. Il connaît déjà un grand succès littéraire outre-Atlantique, mais il s'ennuie. Et surtout, il veut défendre la France. Alors, il part combattre en Afrique du Nord, tout d'abord, et puis il va demander une dérogation pour piloter un Lightning P-38 interdit aux plus de 30 ans, il en a 44. Il n'attendra pas la publication de son livre, Le Petit Prince. Il ne fera même pas les corrections, ni les choix éditoriaux. Il va laisser l'éditeur tout faire, à partir de ses notes, sauf que ses notes sont parfois illisibles. Et ça aussi, c'est un mystère. Parce qu'on se dit pourquoi il a laissé une interprétation de son œuvre et en suspens, au final, en sachant ce qui va arriver derrière. Enfin, lui, il savait pas, mais nous, maintenant, on sait.
Oui, ça, je pense que c'est le plus beau des mystères. C'est-à-dire que le Petit Prince, quand même, le livre le plus lu au monde, le plus traduit au monde. Finalement, la version qu'on connaît, que tout le monde connaît, que le monde entier connaît, c'est peut-être pas la version qu'aurait complètement choisi Saint-Exupéry. Parce que, comme vous l'avez dit, il est reparti. Il a même pas vu son livre publié. En plus, en anglais, alors que lui parlait pas anglais. Donc, c'est assez mystérieux. Et là, effectivement, dans ce roman, c'est peut-être ce dont je suis le plus fier. C'est que j'étais recherché les archives, qu'on peut retrouver les manuscrits originaux, pour voir effectivement toutes les discussions qu'a pu avoir Saint-Exupéry avec lui-même, notamment la fameuse scène du renard et de l'apprivoisement, finalement, où Saint-Exupéry dit beaucoup de choses, parce que ça dit beaucoup de choses de l'amour, de l'amitié. Et là, Saint-Exupéry, qui avait quand même un rapport très complexe avec l'amour, notamment, dit des choses très contradictoires. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que ça change l'angle de vue du Petit Prince.
Saint-Exupéry, qui a écrit donc un livre pour enfants, sur l'enfance. Beaucoup diront de lui comme l'un de vos personnages à Manhattan, la petite fille de Paul Claudel, qu'il avait une âme d'enfant, mais que peu à peu, il s'est assombri. Et peut-être, vous laissez cette supposition en suspension, que Saint-Exupéry a tué son enfance en tuant le Petit Prince. Ce ne serait pas le serpent qui a tué le personnage, mais l'auteur. Et il a déposé au final son enfance, il l'a consignée et il s'en est affranchi pour devenir adulte.
Oui, alors c'est une des hypothèses, hein. C'est effectivement que le Petit Prince est un double de Saint-Exupéry et donc que finalement, en tuant le Petit Prince en quelque sorte, il tue sa propre enfance. Mais enfin, ça n'est qu'une hypothèse, hein, parce que il y en a beaucoup d'autres.
Ouais, plein,
Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Saint-Exupéry fait partie de ces auteurs parfois très sérieux, mais qui ne sont jamais sortis de l'enfance. Mmh. Et c'est ça qui le rend très troublant, c'est-à-dire que ses écrits, notamment ses écrits de guerre, sont très adultes. Et pourtant, il y a toujours cette part de naïveté, d'enfance, qui est évidemment très originale chez lui.
Thomas Fersen est avec nous. Bonjour Thomas Fersen.
Bonjour.
Merci beaucoup. On va vous retrouver dans un instant. Vous avez lu Le Petit Prince, vous,
bien
je suppose.
Bien entendu.
Oui. Ça vous passionne, les histoires comme celle-ci, les mystères du Petit Prince?
J'ai écouté muet.
Oui, c'est pour ça que je vous demande.
Comme un enfant, j'ai écouté ça.
Bon, Code 612, hein, lisez ce livre, Qui a tué le Petit Prince de Michel Bussy, paru aux éditions Presse de la Cité. Vous reversez les droits de ce livre à la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse. Tous les droits?
Tous les droits.
Vous ne gardez rien?
Bah non.
1%, 2%, donc rien.
Non, rien.
Rien. Bon, très bien, bravo. Merci Michel. Vous restez avec nous?
Oui, hein,
vous êtes fan de Thomas Fersen, je crois.
Oui, j'adore.
Ça tombe bien.
Depuis très longtemps.
Enfin, parfait.
Voilà, depuis toujours.
Bon, à suivre donc Thomas Fersen et un nouveau livre pour enfants sur l'histoire du ukulélé. Il jouera d'ailleurs du ukulélé sur notre plateau. Ce sera après le nouveau titre de Juliette Armanet.
C'est la fin. Le tout dernier matin. Le tout dernier jasmin. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot.
C'était le nouveau titre de Juliette Armanet avec le dernier jour du disco.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Thomas Fersen est avec nous pour un livre CD pour la jeunesse qui raconte la fabuleuse histoire du ukulélé et de ses inventeurs. Cet ouvrage fait suite à votre album « Trois petits tours », Thomas, sorti en 2008. Le ukulélé y tenait une grande place. Vous le décrivez comme un avorton de la guitare.
Bah oui, c'est effectivement un avorton de la guitare parce que il est né du cavaquinho qui est lui-même une petite guitare. Il est encore plus petit que la petite guitare qui est, voilà, c'est un instrument qui a une histoire assez romanesque.
Alors, on va la raconter parce que c'est une histoire qui est inspirée effectivement du réel. Vous vous êtes documenté, Thomas Fersen. Et ce sont vraiment ces trois personnages qui ont inventé cet instrument, Manuel, José et Augusto, originaires de Madère, île du Portugal.
C'est ce qu'on raconte. On raconte qu'ils sont partis de leur île poussés par la famine, vers ce qu'on appelait à l'époque les îles Sandwich, parce qu'un amiral anglais les avait baptisés, enfin on les avait baptisés ainsi, parce que je crois que plus ou moins, ça je suis moins sûr, mais elles avaient été découvertes par lui. Et donc ils partent là-bas parce qu'il y a une filière d'immigration.
Ouais, parce qu'ils sont ébénistes en fait.
Ils sont ébénistes, ils n'ont plus de travail. C'est surtout la famine, parce que à l'époque Madère produisait des céréales et massivement, ces céréales étaient exportées vers le Portugal et la terre ne donnait plus, donc ils ont été obligés d'émigrer. C'était la famine, quoi.
Et les habitants n'avaient rien, en fait, sur l'île de Madère.
Il n'y avait plus rien à manger. Voilà. Donc, ils partent sur un rafio qui s'appelait le Ravenskrag. donc, on imagine que c'est un très long voyage, parce qu'il faut quand même aller de l'autre côté, dans le Pacifique. Bon. Ils arrivent là-bas pour, donc, travailler pour les planteurs qui n'avaient plus de main-d'œuvre. ils arrivent et donc leur cavaquinho connaissent un succès énorme, à tel point que ils se mettent à fabriquer dans le bois local qui était le koa, un petit instrument qui lui ressemble, qui s'appelle le ukulélé, baptisé ainsi par les gens de l'île, et qui deviendra l'instrument national.
Voilà, vous avez raconté toute l'histoire, Thomas Fersen, c'est formidable.
Pas tout à fait.
Parce que je vais avouer tout aux auditeurs, c'est que j'avais prévu comme ça un déroulé de l'histoire, avec des extraits de votre livre, et effectivement ils partent pour les îles Sandwich avec un extrait de la musique, puisqu'il y a un CD dans le livre.
Absolument,
on va écouter un extrait.
C'est un livre disque, effectivement, donc il y a... d'abord je raconte l'histoire, et puis je l'illustre avec une chanson et des petites fantaisies.
Alors partons sur les îles Sandwich.
Allons-y te faire nos baluchons.
As-tu pensé au dentifrice?
Peux-tu me prêter un torchon? Je te l'endrai aux îles Sandwich.
Je n'ai plus un maillot qui maille.
Je me trouve un peu maigrichon.
Mon pantalon baille à la taille.
Et le mien fait des tire-bouchons.
Allons-y te faire nos baluchons. Embarquons pour les îles Sandwich.
Un jour nous reviendrons très riches.
Rembourrés comme des polochons.
Les îles Sandwich, que l'on appelle désormais Hawaï, Thomas Fersen, et vous racontez une partie de l'histoire d'Hawaï, parce qu'effectivement, ces trois amis vont travailler dans les cannes à sucre, comme les Chinois, les indigènes de l'époque, et ils ont été décimés par les maladies,
oui, absolument.
Les Chinois notamment.
Absolument, donc il fallait trouver de la main d'œuvre pour produire cette canne, qu'on ne produit plus d'ailleurs à Hawaï. Et ce sont les Portugais qui ont été sollicités et qui se sont fait un peu évidemment embringués là-dedans et trompés, parce que c'est un métier très dur pour gagner pas grand-chose. Mais ils sont venus avec leur culture, ils ont influencé la cuisine locale et donc la musique.
Allez, on va laisser la place à nos libraires qui ont lu cet album pour la jeunesse. On va commencer par la Suisse avec Dominique Bressou, qui adore les livres jeunesse. On va voir si ça passe chez elle. Dominique.
Mais absolument. Et puis j'ai adoré celui-là. Donc c'est drôle, tendre. Et puis l'histoire de l'ukulélé est absolument fascinante. Et surtout, moi, ça me plaît de pouvoir recommander à des parents un livre CD qui non seulement apprendra dans la joie quelque chose à leurs enfants, mais à eux aussi. Et le CD colle admirablement bien aux livres et aux illustrations. Moi, je vous dis, c'est le cadeau de Noël pour de futurs mélomanes.
Déjà Noël. Allez, le Canada, Josiane Letourneau, êtes-vous d'accord?
Ah, complètement. Puis j'en profite pour m'adresser à toutes celles et ceux qui sous-estiment encore le pouvoir de la littérature jeunesse. Je les mets au défi de ne pas succomber, peu importe leur âge, au charme poétique et musical de cette œuvre, pleine de sautillements, de rebondissements, de rythmes, d'humour et d'impertinence même. Il faut bien le dire, les ukulélés, le vôtre et ceux de vos personnages sont irrésistibles. Et cet album est un absolu plaisir.
Voilà, Thomas
Fersen. Merci beaucoup.
Alors, les personnages arrivent enfin à Honolulu après 123 jours de voyage. Ils vont travailler dur dans les plantations et le soir jouer de leur instrument. Je vais lire un extrait du livre. Thomas Fersen, vous voulez bien m'accompagner au ukulélé?
Absolument.
Allez, faisons ça. On va improviser quelque chose ensemble. Allez-y, commencez. Après de longues journées de labeur, le soir dans un jardin de bougainvilliers, d'oiseaux de paradis, de frangipaniers, de philodendrons, de flamboyants et d'hibiscus violets, il se lavait vite fait à la citerne d'eau de pluie infestée de bestioles. À la nuit tombée, jouer de leur instrument auprès d'un feu leur rappelait le pays et leur réchauffait le cœur. Le son qui en sortait semait l'émerveillement autour d'eux et allait même jusqu'à susciter chez les plus méfiants une peur primitive, tant il était étrange en effet qu'un bout de bois se mette à chanter. D'aucuns y voyaient de la sorcellerie, quelque maléfice d'un démon furieux caché dans la nuit de l'instrument nain, prêt à bondir par son ouverture ronde.
J'ai fait ce que j'ai pu.
Hein. C'est magnifique, merci. Merci pour cet accompagnement de luxe, Thomas Fersen. Alors c'est vrai qu'on va leur demander de fabriquer des ukulélés. Ukulélé qui signifie « saute la puce » en langage local.
Oui, absolument.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plusieurs interprétations.
Absolument, il y a plusieurs interprétations. Donc la première serait que les doigts de la main gauche, en frappant les cordes, imitent les sauts d'une puce. La deuxième, que la main gauche, en les grattant, imite le chien qui se gratte.
Ouais.
Débrouillez-vous, en tout cas, ça a un rapport avec la puce, donc la puce qui saute. Et dans ce livre, j'en ai profité pour raconter l'histoire des puces savantes,
ouais, c'est ça.
Dont on a malheureusement perdu l'habitude d'aller voir les spectacles, qui étaient très populaires à la fin du 19e et au début du 20e siècle.
Le ukulélé sera même adopté par le roi des îles Sandwich, c'est ce que vous expliquez, racontez aux enfants.
C'est vrai, c'était un roi mélomane qui avait voyagé à Vienne, et en revenant, il a d'abord rétabli le hola, qui était une danse lascive des mers du Sud et qui avait été interdite par les missionnaires, et il a décidé que le ukulélé serait l'instrument national de l'île, il en jouait lui-même.
Bon, vous allez nous faire un petit cadeau, Thomas Fersen.
Un tout petit cadeau.
Au ukulélé, quelques-uns de vos succès.
Voilà.
Compilation brève.
Voilà, c'est-à-dire.
Vous avez créé quelque chose pour nous, je vous laisse faire.
Oui. Alors, c'est juste pour donner des petites comme ça, photos de mes chansons jouées au ukulélé. J'avais fait un album il y a quelques années comme ça.
Ouais,
et je pensais vous amuser avec ça.
Allez-y.
Les passants sur son chemin soulèvent leur galion, le chien lui lèche les mains. Sa présence rassure, voyez cet enfant qui beugle, par lui secouru, et comme il est de l'aveugle, à traverser la rue, dans la paix de son jardin, il cultive ses roses, monsieur est un assassin, quand il est morose, il étrangle son semblable, dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable, quand il a le bourdon, à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin, je suis son domestique. Voilà, c'était un petit extrait de monsieur, n'est-ce pas? Et je veux vous faire...
Michel Bussy est comme un dingue, hein. À côté, il vous applaudit, on l'entend pas, mais il vous applaudit.
Je vais vous faire un petit morceau de Zaza aussi, oui. Zaza, chienne célèbre, en tout cas, autour de moi. Zaza, tu pues, mais je t'aime quand même. Zaza, ma chienne, t'es une martienne. Manque un œil, puis l'autre oreille. T'en as fait le deuil, mais je t'aime pareil. Zaza, tu ronfles, puis tu te dégonfles. Zaza, tu pètes, Zaza, tu fouettes. Mais je suis ton maître, je suis Gros Thomas. Viens me faire la fête sur l'estomac. Zaza, tu pues, mais je t'apprécie. Le chat aussi. Coussi, coussi. Voilà.
Une petite dernière.
Je travaille au chaboté dans le centre-ville. Je vends l'hiver et l'été des mulets reptiles. C'est mon destin, je suppose. J'ai 15 ans de maison. Ça sent pas toujours la rose, c'est le reblochon. Ah, dans le cas de cette fillette qui tend son pied droit. Son prénom doit être Berthe Pointure 43. Il est l'heure de mon sandwich, mais je n'ai plus faim. Asphyxié par une péniche, telle sera ma fin. Oui, on ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayez, c'est adopter les mules en reptiles.
Bravo, merci Thomas Fersen. On peut vous applaudir à Michel Bussy qui est fan. Voilà, c'est la belle rencontre aujourd'hui.
Oui, je connais tout par cœur.
C'est vrai que vous les connaissiez par cœur.
Oui.
Incroyable. Bon, Thomas Fersen, un dernier mot sur ce livre qui est illustré par Benoît de Becker, un artiste qui était votre voisin quand vous étiez ado. Il paraît qu'un jour, vous parlez de lui dans une interview, et alors que vous l'aviez perdu de vue, il vous contacte sur les réseaux sociaux, c'est vrai ?
Enfin, absolument, c'est-à-dire que je me souvenais avec tendresse de Benoît et de Claire. Claire nous gardait, et Benoît l'a remplacé quand elle ne pouvait pas venir. Elle nous gardait quand on était enfant, donc à la maison quand mes parents sortaient. Et Benoît, très généreusement, m'a porté des BD, m'a fait découvrir, en quelque sorte, la narration.
Ouais.
Et sa sœur m'a appris à jouer Jeux interdits sur ma guitare jouée, qui était encore plus petite que ce ukulélé. Et donc, elle m'a un petit peu initié à la musique.
Ouais.
Donc, j'expliquais dans cette interview que je leur dois à peu près tout. Et Benoît a eu vent de cet article longtemps après, et j'ai eu la chance de le retrouver, et de découvrir qu'il était resté fidèle au jeune adolescent. Qu'il est à l'époque, puisqu'il avait à peu près 13 ans, et puis il était devenu illustrateur jeunesse. Et notre rencontre a tout de suite été marquée par cette collaboration 50 ans plus tard.
avec ce livre, donc Saute la puce, la fabuleuse histoire du ukulélé aux éditions Margaux. Merci beaucoup Thomas Fersen.
Je vous en prie.
Merci, merci infiniment, à très bientôt.
À bientôt.
Avec une guitare cette fois ou autre chose?
Écoutez, ça c'est l'instrument du paresseux. C'est petit, vous voyez, c'est très léger.
Oui. Et puis... Mais tout le monde en rêve, hein. Tout le monde rêve de jouer du ukulélé, mais c'est pas facile. Hein.
Mais si, c'est très facile.
Ah non, moi j'ai essayé, c'est vraiment pas facile.
Mais non, c'est l'instrument le plus simple des instruments.
Vous m'apprendrez. Allez. Bon. Vous savez jouer du ukulélé, Michel
Bussi? C'est mon grand regret.
Mais moi aussi. Bon, on va s'y mettre, on va prendre des cours. Merci Thomas, à bientôt.
Merci.
La librairie francophone.
Les coups de gueule et les coups de cœur des libraires. Première partie, un coup de cœur en France, Thomas Auxerre, dans le rayon des essais.
Et oui, un gros, gros coup de cœur pour un essai de Guillaume Pitron. Alors le titre, c'est L'enfer numérique. C'est aux éditions Les liens qui libèrent. Alors il s'agit d'une enquête parfois de terrain qui est assez poussée et qui fait vraiment froid dans le dos. Elle porte sur les réseaux sociaux, les moyens de production et le stockage des données, de ce que l'on pense parfois un peu comme immatériel, vous savez, le nuage, c'est-à-dire Internet. Mmh. Alors là, c'est très bien sourcé, c'est agréable à lire, hein, malgré le sujet un petit peu technique, et surtout, c'est extrêmement édifiant. C'est vraiment le livre à lire si on veut pas qu'Internet devienne dans quelques années la première source de pollution mondiale.
Dans L'enfer numérique, c'est aux éditions Les liens qui libèrent. Merci Thomas. Un autre coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon.
Mais oui, un coup de cœur pour une campagne qui s'appelle « Lisez-vous le Belge ». Et cette campagne, elle est née pendant la pandémie pour promouvoir la chaîne du livre et de la littérature belge.
Oui, je me souviens.
Voilà, et elle revient en force cette année, enfin, hein, parce que vous savez, je trouve qu'on n'est pas assez chauvin, nous, en Belgique. Bref, et le but de cette campagne, c'est de faire parler, de partager et de s'enthousiasmer pour la littérature belge dans tous ses états. Et c'est juste formidable, ça se passe partout, en librairie, en bibliothèque, les réseaux, ce n'est pas un concours. On peut le faire partout dans le monde, suffit de lire du belge et d'en parler.
Très bien, et c'est jusqu'au 6 décembre. Merci Déborah. On aura deux coups de gueule, je crois, tout à l'heure. Restez avec nous. Dans un instant, l'écrivain libanais Sharif Majdalani, depuis Beyrouth, pour le dernier roman, son dernier roman, qui dénonce les failles et violences du Moyen-Orient. Voici le nouveau titre de Stromae, tout de suite dans la librairie francophone.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies, et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres, Céline. Bataire. Toi tu te prends des vestes au vestiaire, Arlette, arrête. Toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Bonne manière. Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frotter. Frotter, si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
passion.
C'était Stromae avec son tout nouveau titre « Santé » dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et bonjour Sharif Majdalani.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis Beyrouth. Comment ça se passe en ce moment à Beyrouth? La situation s'améliore-t-elle ou un petit peu ou c'est le contraire?
Ah non, c'est le contraire. Non, non, nous sommes dans une espèce d'effondrement permanent, continu. On ne voit pas trop le fond du gouffre. Rien ne va et nous sommes dans une prisonniers d'une classe politique qui ne fait rien pour que les choses s'améliorent. Ouais. Donc ça ne va pas du tout, non.
Bon, vous avez écrit juste après la catastrophe de 2020 le journal d'un effondrement chez Actes Sud. Vous revenez en librairie avec un nouveau roman, cette fois Dernière Oasis, un livre qui met en exergue les dérives du Moyen-Orient et du monde actuel. Vous évoquez une répétition de l'histoire. Malgré les guerres ou les crises politiques et sanitaires, l'humain est capable, dites-vous, de reprendre sa place et le fil des choses, là où tout s'est arrêté. On refait les mêmes erreurs, c'est inéluctable ça?
Bah, c'est inéluctable, oui, j'ai l'impression que l'humain est tellement prévisible qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il réagit toujours de la même manière, et ça ne s'arrange pas, et du coup, on a l'impression que les choses recommencent, toujours les mêmes problèmes, les mêmes fautes, les mêmes erreurs, donc le chaos, le désordre, l'entropie, et donc une histoire qui va un peu dans tous les sens, hélas.
Alors au Liban et en Irak, où se déroule votre roman, c'est la même chose, rien ne sert de leçon, on reproduit encore et encore?
Ah mais ça, en tout cas au Liban, oui, ça c'est évident, on reproduit deux, trois fois la même histoire. En Irak, je ne sais pas en fait, parce que je connais pas très bien l'Irak, parce que finalement, j'ai situé ce livre en Irak pour des raisons liées au sujet que je voulais traiter. Mmh. Mais je crois que l'Irak aussi est un pays dans lequel les choses recommencent sans fin. C'est pas que ça recommence sans fin, c'est les mêmes erreurs qui sont commises et la même façon de réagir aux mêmes erreurs. Et donc effectivement, on accumule les fautes, les erreurs, et ça devient de plus en plus grave en fait.
Alors il y a votre personnage Raphaël qui est le fils d'une grande famille libanaise déchue. Il est devenu spécialiste en archéologie orientale car il y a des trésors à sauver. Les islamistes ont mis la main sur beaucoup d'entre eux, soit pour les détruire, soit pour s'enrichir aussi.
Oui, absolument. Mais en réalité, l'islamisme et son rapport à l'art ne m'intéressait pas tellement. C'est davantage l'archéologie et l'histoire elles-mêmes qui m'ont poussé à écrire ce livre. Mais évidemment, donc j'ai situé ce livre-là, ce roman, en Irak, au moment où précisément l'État islamique s'empare de lâche territoire. Donc je connais pas très bien la question elle-même, mais il est évident qu'ils ont non seulement mis la main sur des trésors, mais ils les ont utilisés pour financer leurs activités. Et quand ils ne pouvaient pas les utiliser pour se financer, ils les ont détruits, donc ils ont détruit des choses avec une rage absolument incompréhensible pour des raisons soi-disant religieuses, mais qui sont en fait surtout une détestation de tout ce que cela représente.
Ouais, c'est ça. Alors Raphaël va être contacté par un général qui a besoin de son expertise. Il part comme ça dans la plaine de Ninive, au nord de l'Irak, dans l'oasis de Sherfanieh. C'est pas très clair, mais il accepte quand même parce qu'il est résigné en fait à faire son travail avec intégrité. Lui aussi est corrompu quelque part.
C'est-à-dire qu'en fait, il a surtout, il a une passion pour le dévoilement des œuvres d'art, pour tout ce qui est le dévoilement de la beauté qui est en permanence un dévoilement de quelque chose qui crée une émotion. Et l'archéologie, c'est par excellence le dévoilement des choses qui sortent, c'est le temps qui apparaît, le temps ancien enfoui, immobile, qui apparaît soudain. Et donc, c'est une passion qu'il a. Et puis, les objets sont tellement beaux qu'il n'a pas, surtout pas envie que d'autres gens que lui ne s'y intéressent, ne les dilapident. Il a envie de, finalement, d'être le conservateur de ces beautés-là, même si elles sont entre les mains d'un général dont on comprend pas très bien ce qu'il fait. Et du coup, il se trouve à son corps défendant du côté de l'illégalité et il finit par l'assumer.
On va laisser la parole à nos libraires, Sharif Majdalani, avec Thomas Hausser en France qui a lu votre roman, Thomas.
Oui, alors moi, c'est le troisième livre que je lis de vous et c'est encore une fois une super expérience. Alors certes, il faut être un petit peu disponible hein, car votre langue est belle et exigeante et peut-être ne pas vouloir qu'il se passe un truc à chaque page car le récit avance doucement. Bon, des fois, je sais qu'il y a certains lecteurs qui reprochent ça. Moi, en tout cas, de la lecture de votre livre, j'en ai tiré beaucoup de plaisir, notamment avec votre narrateur érudit en quête de sens, historique et philosophique, donc on vous recommandera chaudement à l'Amandier.
Bien, la Suisse avec Dominique Bressoux, qu'en pensez-vous?
Alors vraiment que de découvertes dans ce livre, on pourrait en parler pendant des heures. Déjà, c'est passionnant comme une enquête policière, avec ce qu'il faut de suspense, mais les hypothèses du personnage principal sur la place du hasard dans les événements historiques déterminants, ça m'a carrément donné le vertige. Rien que ce prisme de lecture de l'histoire, ça vaut à lui seul le détour pour ce livre.
Sharif Majdalani, Dernière Oasis, paru chez Actes Sud. Voilà l'avis de nos libraires, Sharif. Un commentaire ?
Ouais, oui, je suis très heureux de les entendre, les libraires. Et puis, j'aimerais dire une chose, c'est que moi, en soi, j'adore les libraires. Je ne le dis pas pour leur faire plaisir à eux deux, mais j'adore les libraires parce que je pense qu'ils sont d'abord d'extraordinaires lecteurs et leur enthousiasme est formidablement prescripteur. Et donc, vraiment, merci de tout cœur parce que j'apprécie. Et j'aime bien qu'on me dise finalement que dans mes livres, il ne se passe pas beaucoup de choses parce qu'il y a aussi le plaisir de la langue.
Ouais, ouais.
J'y tiens absolument, oui. Merci beaucoup.
Bon, en tout cas, ils sont sincères, hein, car dans cette émission, vous le savez, ils ne sont ni censurés, ni obligés de faire des compliments, hein. C'est pas toujours le cas d'ailleurs. On assiste à la prise de pouvoir progressive des djihadistes dans votre roman, Sharif. Autour de l'Oasis, les villes tombent une par une jusqu'à Mossoul. Vous racontez la résistance kurde et celle des yézidis, les combattants dispersés, comme ça qui tentent de sauver des parties de territoire, les bandes rivales. Rien n'est coordonné, rien n'est vraiment organisé avec solidarité et du coup les djihadistes en profitent. C'est ça le problème.
Écoutez, oui, c'est ça. Enfin, évidemment, je ne montre pas tout ça parce que je ne parle absolument pas de la situation. Je parle simplement de la manière avec laquelle
un
individu vit le... Oui, bien sûr, non. C'est la manière avec laquelle un individu vit le désastre que cela représente. Évidemment, il entend parler des yazidis, il sait que les Kurdes sont là, il sait que les djihadistes sont arrivés, il ne voit personne. Il est comme n'importe lequel d'entre nous qui est confronté à la violence de l'histoire. Et effectivement, il voit tout ça partir en quenouille et il se rend compte que tout cela est essentiellement le fruit d'un grand désordre, d'une absence de coordination, et surtout d'un manque total d'intentionnalité. On a toujours l'impression que les événements sont voulus par les uns et les autres et que chacun élabore un plan qu'il suit, qu'il met en place. On s'aperçoit et il s'aperçoit que tout ça est absolument vain et que chacun joue une partie à l'aveugle en tâtonnant et que finalement on aboutit une fois de plus à un formidable chaos.
Ouais, les familles fuient hein, effectivement quand elles sont envahies par les djihadistes, comme Abraham fuyant avec son peuple. C'est ce que vous dites aussi, Sharif Majdalani. Vous écrivez, c'était l'Ancien Testament rejoué au 21e siècle.
Oui, c'est l'impression que ça a donné. Enfin, moi, je me souviens que quand j'ai vu les Yazidis partir, fuir comme ça, sortir d'Irak, j'ai pensé tout de suite à la sortie d'Irak d'Abraham dans la Bible, parce qu'on pense qu'Abraham est sorti aussi parce que il ne pouvait plus rester sur place. Et cette idée que finalement, on n'arrête pas de rejouer les mêmes histoires, les mêmes drames reviennent, et surtout, on les relie au prisme des textes anciens. On a l'impression que l'histoire se répète simplement parce qu'un événement qui est là, on le lit, on le comprend, on pense le comprendre en fonction de ce qu'on a lu dans le passé, en fonction de ce que l'histoire nous apprend, et du coup on a l'impression que l'histoire se rejoue en permanence sous nos yeux. Et alors évidemment c'est terriblement poétique et c'est désastreux et c'est faux, probablement faux, parce que rien ne se reproduit de la même manière. C'est notre façon de lire les événements simplement pour nous rassurer nous-mêmes.
Et dans ce chaos, il faut sauver certains trésors de l'art ancien.
Il faut sauver l'art, il faut sauver la beauté des choses, évidemment. Ce que l'homme a fait de plus beau est toujours la première chose qui est victime de la violence. Et si on peut le sauver, évidemment, c'est sauver une partie de notre humanité.
Bon, vous écrivez en tout cas un passage analytique très intense, page 120. Je vais en lire un extrait, Sharif Majdalani, sur la musique de Nasser Chama. Je crains que le monde entier sombre à cause de ces gens. L'humain est terriblement prévisible. Ses réactions face aux mêmes dangers, aux mêmes situations, aux mêmes calamités sont toujours identiques. Et ce ne sont jamais les bonnes, ni en tout cas jamais les meilleures. On n'apprend rien, on refait éternellement les mêmes fautes et les mêmes bêtises. Et ce que je veux dire, quand je prétends que l'Occident aussi va vers un nouveau Moyen-Âge, c'est que la réponse aux monstruosités de l'État islamique, de ses prédécesseurs et sans doute de ses successeurs, ce sera le repli de l'Occident. La réponse nationaliste, religieuse, communautaire, dont rêvent les démagogues, et qui nous fera aller vers la confrontation et vers la rupture. Face à la barbarie née ici, l'Occident répondra par la sienne propre, et nous sombrerons tous. C'est le danger, Sharif Majdalani, de tous sombrer. que vous écrivez là, vous le pensez sincèrement?
Écoutez, oui, je le pense sincèrement. Oui, sinon je l'aurais pas écrit, mais je le crains. Je le crains surtout. Je le pense pas. Je le crains. J'ai très peur, effectivement, d'une confrontation. C'est-à-dire, j'ai surtout très peur parce que quand on est en dehors de l'Occident, on regarde l'Occident avec envie. On regarde la démocratie fonctionner. On pense quand même d'ici que la démocratie est la chose la plus extraordinaire que l'humanité ait réussi à créer pour se gérer elle-même. Et la voir ainsi livrée à des démagogues et surtout la peur de la voir soudain se braquer, l'Occident, les démocraties se braquer face à un danger extérieur et se replier et du coup devenir une forteresse que les autres vont venir assiéger, c'est une chose qui me terrifie parce que du coup c'est le monde entier qui partira là.
Et vous prenez l'image de l'oasis, c'est pas un hasard ça aussi, Sharif. Dans cette oasis qui a tout pour elle, pleine de richesses comme une caverne d'Ali Baba, sauf que même à l'écart, même isolée dans un désert, elle n'est pas à l'abri de la détermination des hommes. Rien n'est à l'abri en fait de cette détermination, de cette corruption et de cette violence.
Non, rien n'est à l'abri. L'oasis, c'est l'idée aussi du temps suspendu, du fait du moment où l'homme peut enfin contempler l'existence, son être, son être au monde, son rapport au cosmos. Et puis soudain, évidemment, l'histoire arrive et emporte tout. Et c'est un petit peu ce qui se produit dans ce livre.
Que reste-t-il à espérer alors, Sharif Majdalani?
Il reste à espérer, d'abord, par exemple, de manière très pragmatique et ponctuelle, le fait que les démocraties aujourd'hui résistent, ça c'est une chose importante, qu'elles tiennent le coup face à la violence permanente qui lui vient de l'extérieur et à ses propres démons, parce que la démocratie est toujours aussi livrée à ses propres démons à elle-même. Ça c'est une chose qu'il faut espérer, et puis le reste, espérer quand même malgré tout que les humains apprendront, ou qu'ils se remettent à essayer d'apprendre du passé, de l'histoire, pour ne pas commettre les mêmes erreurs, parce que c'est ce qui n'arrête pas de se produire.
Bon, on va rester sur ces propos, Sharif Majdalani, très effrayant effectivement, comme vous dites. En tout cas, il faut lire ce livre, Dernière Oasis, aux éditions Actes Sud, en coédition avec L'Orient des Livres, si on veut en savoir plus, et surtout si on veut avoir votre point de vue. Merci, Sharif Majdalani.
Merci à vous, Emmanuel.
Bon week-end à vous, à Beyrouth, Sharif.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Les coups de gueule et les coups de cœur des libraires. Deuxième partie, en Suisse, coup de gueule. Au Canada, coup de gueule. Comme ça, au moins. On commence par qui? Tiens, Dominique Bressoux.
Oui. Alors
je la sens énervée.
C'est pourquoi les clients n'achètent-ils plus de beaux livres?
Mais oui, pourquoi?
Parce que c'est quand même le meilleur moyen de se plonger dans la beauté des photographies, des peintures, dont la reproduction sur des micro-écrans de téléphone portable, ça ne donne même pas une pâle image.
Ouais.
Et en fait, c'est tout un pan de la vente de livres qui s'effondre, alors que les artistes en ont besoin, ne serait-ce que pour leur renommée.
Effectivement, et les beaux livres c'est cher quand même, hein. C'est ça aussi peut-être.
Oui, mais ça vaut la peine.
Oui, c'est vrai, c'est un beau cadeau puisque les fêtes arrivent. Au lieu de s'acheter une babiole technologique, acheter des beaux livres, il y en a de magnifiques à Noël. Des livres qu'on garde toute sa vie, hein. Je vous assure, j'en ai fait l'expérience. Merci pour ce coup de gueule, Dominique. Josiane, au Canada, qu'est-ce qui se passe?
Ben, il se passe en fait que j'ai envie de faire un coup de gueule sur le livre offensant de Guy Nantel que je sous-titre « Ou comment ne pas donner le goût d'ouvrir un livre ». Alors au Québec, on connaît la teinte très politisée de l'humour de Guy Nantel, mais la couverture de son dernier livre qui est présentée comme un essai abordant les sujets qui font polémique en ce moment dans notre société. Donc la couverture extrêmement minimaliste, voire simpliste, avec un emoji qui se cache la bouche avec un air outragé, franchement, dessert complètement toute prétention de nuance ou de réflexion. Bref, c'est vraiment pas réussi.
Ouais, la couverture est nulle, quoi.
Oh, complètement nulle.
Faites attention aux couvertures, c'est vrai, hein. C'est le premier contact avec le livre, Thomas Osser, vous êtes d'accord?
Ah bah oui, absolument. Ouais, ouais.
Bon, le message est passé. Merci beaucoup, Josiane.
De rien.
Avant de conclure, on écoute le son de l'outre-mer avec l'artiste martiniquais Battery Crémil qui est mort le 29 octobre dernier à l'âge de 68 ans. Toutes nos pensées pour ses fans et ses proches. Voici un extrait populaire de son répertoire. C'était un hommage au Martiniquais Batteur Écrémil, disparu fin octobre. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Mathias Alléon à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Véret et Christophe Magère de France Inter avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, Philippe Djian, remis du Covid, et on est très heureux de le recevoir en pleine santé. Il devait venir et ça ne s'était pas fait. Le revoici donc. Bon week-end, bonne semaine à tous et merci pour votre fidélité. À bientôt, salut.